Mardi donc 14 mai 2024, c'est notre dernière séance consacrée à Schopenhauer. Et donc, comme je vous l'ai dit, nous aborderons ce soir la lecture du supplément 44 au monde comme volonté et comme représentation qui était annoncé au programme de cette année. Bon, et je vous ai dit qu'on n'aura quasiment pas le temps de parler du 41 consacré à la mort. Enfin, je vais juste te présenter. Donc, supplément 44 qui renvoie à la quatrième partie de l'œuvre. Il y a quatre parties. Et le titre de ce supplément, c'est Métaphysique de l'amour. Alors, dans la collection que je vous ai conseillée, c'est Métaphysique de l'amour. En fait, d'autres traducteurs mettent Métaphysique de l'amour sexuel. Le mot allemand, c'est Geschlechtsliebe. Donc, c'est l'amour sexuel. Et effectivement, c'est la traduction qui convient, puisque nous allons voir que, selon Schopenhauer, l'amour a sa racine dans l'instinct sexuel. Alors, il y a le supplément 41 dont je devais parler, mais on n'aura pas le temps. Simplement, je vous en rappelle le titre, « De la mort et de ses rapports avec l'indestructibilité de notre être en soi ». En fait, il y a un rapport entre les deux, entre la question de l'amour et la question de la mort. Mais là, on n'aura pas le temps d'en parler. Alors, ce supplément 44 dépend aussi du supplément 42, comme je l'ai dit, qui a pour titre « Vie de l'espèce », et qui lui est très court, mais qui est important. Alors, première question, pourquoi ne pas avoir abordé plus tôt la lecture de ce fameux supplément 44, qui est au fond un texte assez célèbre? Pour deux raisons. D'une part, parce que, je vous l'avais dit, il m'avait semblé que il était d'abord nécessaire de parcourir l'œuvre entière, le monde comme volonté, comme représentation, d'en comprendre les concepts majeurs, pour se donner les moyens de lire le fameux supplément 44 et de le comprendre, sans se limiter à une lecture qui aurait risqué d'être assez superficielle. Et je dois reconnaître tout de même que souvent, bon, moi je vois des commentaires qui en sont faits, je les trouve assez superficiels parce qu'ils ne se rattachent pas, au fond, à l'inspiration majeure de l'œuvre. On parle de ce texte de façon un peu séparée, c'est pas possible. Et puis, pour une autre raison, pour éviter d'autre part les réactions de rejet qu'aurait pu susciter une lecture immédiate de ce texte, qui est consacré donc à l'amour. Parce qu'il y a, en effet, dans ce texte, vous l'aurez noté, des passages assez misogynes, assez sexistes, qui peuvent dissuader de poursuivre la lecture. C'est indiscutable, hein ? Bon, alors, il faut essayer de les replacer dans leur contexte. On ne peut pas le nier, on ne peut pas nier leur existence, mais si ce supplément se réduisait à cela, évidemment, il ne mériterait pas notre lecture. Mais le texte de Schopenhauer va bien au-delà de cet aspect, tout de même. Et on va voir que son intérêt consiste dans l'originalité de sa démarche. C'est-à-dire qu'il y a des aspects franchement datés, vieillis, enfin, qu'on peut estimer relevés du préjugé, puis d'autres qui, enfin, si on comprend la démarche d'ensemble, qui sont effectivement extrêmement novateurs. Schopenhauer inaugure une approche qui sera reprise par des philosophes aussi différents que Nietzsche, Freud, Marx. Approche qu'on peut qualifier d'approche généalogique. Alors, je vais m'expliquer sur ce terme. Pour comprendre cette approche, pour en comprendre l'originalité, il faut d'abord que je rappelle la distinction que nous avons eu l'occasion d'expliquer dès notre première séance consacrée à Schopenhauer. Alors, désolé à chaque fois, je suis obligé de faire des rappels, mais je pense qu'ils sont toujours indispensables. Nous avons vu que la conception de l'homme que développe Schopenhauer repose sur la distinction entre ce qu'il appelle la volonté, et puis l'intellect, l'intelligence, si vous voulez. Et je rappelle que le terme de volonté n'a rien à voir, pour lui, avec la représentation que nous nous en faisons. Pour nous, la volonté, notre volonté, c'est une faculté consciente par laquelle nous décidons de nos choix et qui commande notre action. Et la volonté, pour nous, selon nous, elle n'appartient qu'à l'homme, parce que seul l'homme dispose d'un esprit. On ne prêtera pas une volonté à un animal. Vous voyez ? C'est comme ça que nous pensons ordinairement. Or, pour Schopenhauer, nous l'avons vu, la notion de volonté a une extension beaucoup plus grande. Et ce qu'il nomme ainsi, ou ce qu'il nomme aussi le vouloir vivre, c'est le fondement métaphysique de toute réalité et de toute activité. C'est une force aveugle, impersonnelle, présente en toute chose, quelle qu'elle soit, que ce soit des êtres inanimés, des êtres matériels, que ce soit des êtres vivants, que ce soit l'homme qui est un être vivant. C'est une sorte de pulsion primitive qui constitue le fond de tout phénomène individuel, qu'il soit humain ou non humain. Ainsi, le monde où nous vivons, et nous avec lui, eh bien, ce monde est la manifestation, Schopenhauer dit aussi l'objectivation de la volonté, de ce vouloir aveugle, que Schopenhauer appelle aussi, je vous l'ai dit, le vouloir vivre. Quant à la volonté humaine, elle est une manifestation individualisée de ce vouloir universel. Et elle ne se limite pas seulement à ce que nous en disons. Elle ne se limite pas seulement à la conscience que nous avons de décider. Elle comprend toute notre vie affective, inconsciente et consciente. En ce qu'elle est la force intérieure qui impulse nos besoins, nos désirs, et qui se manifeste par nos actes. Quant à l'intellect, donc l'intelligence, il n'est chez les animaux qu'un moyen au service de la volonté. Autrement dit, il n'est qu'un moyen au service de la vie et de sa conservation. Et selon les animaux, hein, évidemment, il y a plusieurs types d'animaux, eh bien l'intellect est plus ou moins développé, plus ou moins élaboré, et en l'homme, l'intellect lui permet de se représenter le monde. Par son intellect, l'homme est un animal capable de se représenter le monde. Et le monde tel qu'il nous apparaît n'est rien d'autre, comme le disait au début Schopenhauer, il n'est rien d'autre que notre représentation. C'est-à-dire ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous touchons, hors de nous, eh bien, nous ne l'avons jamais perçu qu'en nous. Nous ne l'avons jamais perçu qu'en nous. C'est-à-dire que nous n'apercevons le monde qu'à travers le prisme des structures de notre intellect. Et je rappelle que ces structures, les structures du sujet connaissance, c'est l'espace, le temps et la causalité. Bon. Donc, en considérant que l'intellect est une faculté qui est d'abord au service de la vie, au service de la volonté, eh bien Schopenhauer est en rupture totale avec la tradition philosophique qui est initiée par Platon et Aristote. Traditionnellement, l'intellect, l'intelligence, est considéré comme une faculté qui est à la fois autonome et supérieure. Pourquoi autonome ? En ce que, selon cette tradition, c'est une faculté qui n'a pas d'autre fin qu'elle-même. Elle n'est pas asservie à une autre faculté, et donc c'est librement qu'elle exerce son activité de questionnement, au fond, pour la tradition, c'est une faculté désintéressée. Et pourquoi c'est une faculté considérée comme supérieure ? Eh bien, en ce qu'elle est destinée à commander aux autres facultés. Pour Platon et Aristote, je pense à ce que dit par exemple Platon dans La République, eh bien, pour Platon et Aristote, un homme accompli, un homme sage, c'est un homme dont l'âme est sous la direction de son intellect, qui est la faculté supérieure. Et l'intellect commande en lui, en l'âme, elle commande au désir. Voilà l'idée très classique hein, que l'on a de l'intellect. Or, c'est précisément cette supériorité et cette autonomie de l'intellect que refuse Schopenhauer. Primitivement, l'intellect n'est, encore une fois, qu'une faculté au service de la volonté, c'est-à-dire au service de la vie, c'est-à-dire sa destination est biologique. Ainsi, l'intellect ne nous fait connaître les choses que dans la mesure où elles intéressent notre volonté, c'est-à-dire que dans la mesure où elles sont au service de nos besoins et de nos désirs. L'intellect est une faculté intéressée, vous voyez, de ce point de vue-là. Alors, comme on l'a vu, on est toujours dans le rappel, hein, il faut qu'il y ait lieu une rupture au sein de cet être vivant qu'est l'homme pour que l'intellect soit susceptible d'étonnement, pour qu'il se libère, hein, pour qu'il se libère en quelque sorte de l'emprise de la volonté et pour qu'il commence à s'interroger sur le monde. Vous vous souvenez ? Et cette rupture, elle vient de sa rencontre avec le mal au sens du mal souffert, du mal subi, comme du mal commis. Et là, je vous relis un petit passage d'un texte qu'on avait lu ensemble, il est facile à comprendre. « Sans aucun doute, écrit Schopenhauer, c'est la connaissance des choses de la mort et la considération de la douleur et la misère de la vie qui donne la plus forte impulsion à la pensée philosophique et à l'explication métaphysique du monde. Si notre vie était infinie et sans douleur, il n'arriverait peut-être à personne, de se demander pourquoi le monde existe. » Vous vous souvenez de ce texte, il faisait partie d'un supplément consacré aux besoins de métaphysique de l'homme. Alors voilà, ce rappel était nécessaire. Il est nécessaire si on veut comprendre les conséquences que Schopenhauer va tirer du primat de la volonté sur l'intellect. Prendre acte du fait que l'intellect est d'abord au service de la volonté, c'est-à-dire de la vie, eh bien c'est ne plus prendre pour argent comptant les représentations intellectuelles que l'homme se fait spontanément de lui-même et de son existence. C'est admettre que ces représentations sont l'expression de motivations inconscientes qui échappent à l'intellect et qui constituent son véritable sens, qui constituent leur véritable sens, pardon. Vous voyez, donc les représentations qui sont en nous, elles ne sont pas purement transparentes, elles sont motivées hein, ici par une force inconsciente qui est la volonté. Ainsi, comme on va le voir, on ne peut plus se fier simplement aux représentations conscientes que les hommes se font de l'amour et de la mort, si on veut connaître leur réalité. Et ordinairement, qu'est-ce qu'on fait pour connaître l'amour ? Ben, on part de ce que les hommes en disent, de ce qu'ils vivent, des représentations qu'ils en ont. Eh bien non, ça ne suffira pas. Si vous voulez connaître ce qu'est l'amour, il ne faut pas vous limiter ici à prendre en considération les représentations conscientes que nous en avons. Et vous voyez que donc, avant Nietzsche, avant Freud, avant Marx, Schopenhauer est le premier philosophe qui va montrer que la conscience humaine est productrice d'illusions. La conscience humaine engendre des illusions. Et il est le premier philosophe qui va montrer que l'être véritable de l'homme ne peut plus être cherché dans la connaissance consciente qu'il a lui-même. Et ça, c'est une nouveauté. C'est un tournant. Et c'est ce que j'appelle la méthode généalogique, c'est-à-dire qu'on va chercher les origines véritables, hein, du sens de ce qui est vécu par l'homme. Mais pour cerner ses véritables origines, il faudra, en quelque sorte, ne plus se fier simplement à la conscience. Alors, qu'il s'agisse donc de l'amour ou de la mort, bon, on n'aura pas tant parlé de la mort, les hommes sont spontanément dans l'illusion. Quand ils éprouvent le sentiment amoureux, ils sont spontanément dans l'illusion. Et dans les deux cas, mais là on verra seulement le cas de l'amour, ces illusions s'expliquent par le vouloir vivre qui opère en l'homme à son insu. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est à la lumière de ce principe métaphysique qui est la volonté avec un grand V majuscule que l'on pourra comprendre le sens véritable de l'amour. Alors, on va donc examiner maintenant, justement, la passion amoureuse en lisant le supplément 44. Et là, je vais lire progressivement, de façon attentive, le texte. Je vous ai remis un certain nombre d'extraits. Alors, il y a même un extrait que je vais suivre assez fidèlement au départ. Alors, au début de... Alors, vous l'avez dans cette collection, hein, aussi, c'est une petite collection. Mais ce n'est pas exactement la même traduction que celle-ci, hein. C'est pas grave. Moi, j'ai photocopié la traduction Burdeau, hein, qui est là. Alors, au début donc, du supplément 44, Schopenhauer reproche au philosophe de s'être assez peu intéressé à l'amour. Alors, il est assez injuste. Bon, il parle, par exemple, de Spinoza de façon un petit peu cavalière, à mon avis. Bon, il y a un seul philosophe qui est grâce à ses yeux, c'est Platon. Et c'est vrai, Platon, dans le Banquet et dans le Phèdre, consacre évidemment des analyses très célèbres à la question de l'amour. Mais le grand reproche de Schopenhauer, c'est qu'il adresse au philosophe, c'est d'avoir surtout laissé ce sujet aux poètes, aux littérateurs. Et c'est vrai que l'amour se trouve au cœur de tous les romans, de toutes les grande tragédie. Alors, il cite ici par exemple Roméo et Juliette de Shakespeare, Les souffrances du jeune Werther de Goethe. C'est un roman célèbre en Allemagne. Hein, Goethe, il l'a connu, hein, Goethe. C'était un ami de sa mère. Et les souffrances du jeune Werther ont eu un écho considérable à son époque. Au point même que Goethe s'en voulait parce qu'il y a eu une vague de suicides après lecture de cette œuvre. Et il se sentait un peu coupable. Hein. Bon. Mais sans même faire appel à la littérature, une simple attention aux préoccupations de chacun témoigne du caractère central de l'amour dans la condition humaine. Et là, je vais lire un premier extrait, c'est le texte numéro 1. Je les ai numérotés, hein, page 1. C'est très simple, hein, le début est assez facile à lire. Hein. Voilà ce que dit Schopenhauer. En réalité, l'expérience nous prouve aussi, bien que ce ne soit pas quotidien, que ce qui ne nous paraît d'ordinaire qu'un penchant assez vif, mais encore facile à maîtriser, peut, dans certaines circonstances, prendre les proportions d'une passion supérieure en violence à toutes les autres, et qui, écartant toute considération, surmonte tous les obstacles avec une force et une ténacité incroyables. Alors, pour l'assouvir, on n'hésite pas à risquer sa vie, et en cas d'échec, à la sacrifier. Alors Werther se suicide. Les Werther, les Jacques Ortiz, alors je ne connais pas, hein, par contre ça, n'existe pas seulement dans les romans, chaque année, n'en produit pas moins qu'une demi-douzaine en Europe. Et à ce qu'on dit, Schopenhauer lisait tous les matins la Gazette de sa ville, à Francfort, il retenait beaucoup les faits divers. Hein. Il s'occupait pas beaucoup de politique, ça ne l'intéressait pas. Par contre, il s'intéressait beaucoup aux faits divers, notamment aux histoires d'amour qui finissent mal, tragédie. Ainsi, les amoureux ne meurent pas d'amour seulement dans les romans et dans les tragédies, ils en meurent également souvent dans la vie réelle, comme en témoigne donc la lecture des journaux. Et c'est dire que l'amour n'est pas seulement un thème romanesque. Et comme le note Schopenhauer, il est, avec le désir de vivre, le plus puissant de tous les ressorts. Et là, nous allons lire le deuxième extrait à partir, alors c'est le deuxième texte, à partir de la ligne 18. Je reviendrai après au début. Alors, ligne 18, ça commence par « Avec l'amour de la vie ». Il nous apparaît comme le plus puissant et le plus énergique de tous les ressorts. Il accapare sans cesse la moitié des forces et des pensées de la partie la plus jeune de l'humanité. Et Schopenhauer de se livrer ensuite à une description pittoresque des faits et des méfaits de la passion amoureuse. Et vous allez voir qu'il la décrit surtout comme un facteur de trouble et une puissance de désordre. Je poursuis ma lecture. But final de presque tous les efforts des hommes, il exerce dans toutes les affaires importantes une déplorable influence. À toute heure, il vient interrompre les occupations les plus sérieuses. Parfois, il trouble pour quelque temps les têtes les plus hautes. Il ne craint pas d'intervenir en perturbateur avant tout son avec tout son bagage dans les délibérations des hommes d'État et les recherches des savants. Il s'entend à glisser ses billets doux et ses boucles de cheveux dans le portefeuille d'un ministre ou dans un manuscrit philosophique. Il fait naître tous les jours les querelles les plus inextricables et les plus funestes, brise les relations les plus précieuses, rompt les liens les plus solides. Il exige le sacrifice parfois de la vie ou de la santé, parfois de la richesse, du rang et du bonheur. Que d'hommes importants ont été perdus à cause d'une histoire d'amour. Enfin, pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Elf. Ah ben le PDG, le Floch Prigent, il avait succombé à une passion amoureuse. Il avait laissé sa carte bleue à sa maîtresse et on avait fait un usage un petit peu excessif. Et c'est comme ça que c'est fait pincer. Vous voyez, un homme qui devait être extrêmement précautionneux sous d'autres aspects. Hein, évidemment, il avait une responsabilité très importante. Elf en Afrique, hein, c'est pas rien. Mais là, vous voyez, voilà, comment il a été perdu. Ça confirme ce que dit Schopenhauer. Hein. Alors, ce qui est frappant dans ce tableau que dresse Schopenhauer, c'est le renversement opéré par l'amour. Il renverse tout sur son passage. Ainsi, ce qu'on croyait bien établi se révèle avec lui tout d'un coup parfaitement instable. Je lis par exemple ici, juste après, « D'un homme honnête, il peut faire un coquin sans conscience. D'un homme jusqu'alors fidèle, un traître. » Et il conclut, partout en un mot, il nous apparaît comme un démon ennemi qui s'efforce de tout intervertir, de tout troubler, de tout bouleverser. Alors un tel spectacle ne peut que susciter l'étonnement. D'où la question, d'où les questions de Schopenhauer, je poursuis ma lecture. Comment donc alors ne pas s'écrier « À quoi bon tout ce bruit ? Pourquoi cette agitation et cette fureur, ces angoisses et ces misères ?» Alors une réponse simple lui vient spontanément à l'esprit, qui consiste à reprendre de façon assez allusive le mythe d'Aristophane, dont je vous ai parlé, dans le banquet de Platon. Et voici l'allusion très 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 sommaire qu'il en fait. Il s'agit, dit-il, simplement, en somme, pour chacun de trouver sa chacune. C'est à ça qu'il réduit le mythe d'Aristophane. Dans une note, d'ailleurs, alors j'ai pas mis la note, hein, il renvoie à ce texte. Hein. Mais ici, le traitement ironique que fait Schopenhauer du mythe d'Aristophane montre assez que cette réponse est beaucoup trop simple. Elle n'explique rien. Parce que pourquoi chacun cherche-t-il sa chacune? Pourquoi? Alors, on notera qu'en reprenant ce mythe de manière ironique, Schopenhauer lui fait précisément perdre sa dimension mythique. Il en réduit considérablement le contenu. Puisque, bon, je vous rappelle, selon le mythe, les hommes avaient pour ancêtres des êtres qui formaient des sphères parfaites, qui étaient composées de deux moitiés. Alors, il y avait trois possibilités, soit une moitié mâle et une autre moitié mâle, soit une moitié femelle et une autre moitié femelle, soit une moitié mâle et une moitié femelle, ça c'est l'androgyne. Bon. Et chacune de ces sphères comportait deux visages, hein, un devant, un derrière, quatre bras, quatre jambes. Et donc, ils se déplaçaient, vous voyez, un peu comme un saltimbanque. Et alors, c'était des êtres extrêmement puissants et redoutables, et ils avaient la prétention de rivaliser avec les dieux. Et comme ça, ils avaient entrepris d'escalader les cieux. Alors, Zeus avait réuni un conseil de guerre. Il était inquiet de la situation. Il avait décidé avec les dieux, avec ses collègues de punir ces hommes ancestraux de leur audace, et ils décidèrent de les couper en deux. Ce que nous sommes devenus, hein. Et de sorte que désormais, les hommes n'étaient plus que des moitiés séparées de leur autre moitié, avec seulement un visage, deux bras, deux jambes, et n'aspirant plus qu'à une seule chose, hein, retrouver leur moitié, retrouver la moitié dont ils avaient été séparés, s'unir avec elle, hein, pour recomposer l'unité perdue. Hein, c'est ça, la quête amoureuse, hein, selon le mythe d'Aristophane. Donc vous voyez que, selon le mythe d'Aristophane, l'amour s'explique par la recherche de la moitié dont on a été séparé, dont on a été originellement séparé, d'où la formule à chacun de trouver sa chacune. Seulement ici, Schopenhauer réduit la quête des amants à une pure nécessité physique, biologique. Hein. Et ce faisant, d'ailleurs, il réduit aussi l'amour à une seule de ces trois dimensions possibles. Selon le mythe, il y en a trois tout de même. Hein. La dimension hétérosexuelle, l'union d'un homme et d'une femme. Or, s'il était vraiment fidèle au mythe, Schopenhauer devrait développer trois formules, à chacun son chacun, à chacune sa chacune, et à chacun sa chacune. Hein. Là, il n'y en a qu'une. Alors, et vous me direz, oui, mais c'est vrai qu'il ne parle pas, enfin, dans le supplément 44, il ne parle pas de la relation homosexuelle. Et il semble exclure, puisque vous allez voir que, selon lui, l'amour s'explique en vue de la perpétuation d'espèces. Alors, c'est inexact parce qu'il a, d'ailleurs il y a réfléchi, il a ajouté au supplément 44 un appendice où il aborde la question de l'homosexualité et, alors il parle à son propos d'une perversion, mais ce n'est pas forcément uniquement en un sens moral, d'une perversion de l'instinct sexuel, tout en précisant que cette perversion finalement, indirectement, elle a une finalité naturelle parce que elle est un moindre mal, selon lui, qui permet de déjouer les effets les plus pernicieux, hein, de l'instinct sexuel. Alors évidemment, on en reparlera si vous voulez, mais il y consacre tout de même une réflexion. Alors, on verra comment, enfin, si vous voulez. Mais j'en parle déjà. En tout état de cause, la réponse, même très réductrice, que l'on peut extraire ici du mythe d'Aristophane, à chacun de trouver sa chacune, cette réponse, évidemment, pour Schopenhauer, n'explique rien. Elle n'explique pas les véritables raisons pour lesquelles les amants cherchent à s'unir. Surtout, elle n'explique pas pourquoi une telle recherche en accaparant leur énergie et leurs efforts, aboutit à tout bouleverser, à bouleverser totalement la vie des hommes. Je reprends le terme, la question de Schopenhauer, pourquoi une chose si simple doit-elle tenir une place de cette importance et venir sans cesse déranger et brouiller la bonne ordonnance de la vie humaine? Alors ici, on pourrait penser que la disproportion des efforts engagés par les amants pour arriver à un résultat aussi grotesque, cette disproportion, au fond, est plutôt comique. Elle pourrait prêter à sourire, elle pourrait nous conduire à traiter ici l'amour comme une bagatelle, c'est-à-dire c'est le mot employé par Schopenhauer. Nous pourrions être tentés de penser qu'il ne s'agit là que d'une comédie dérisoire. Mais si vous lisez la suite du texte, pour Schopenhauer, conclure ainsi, ce serait commettre une erreur. Je lis le texte à partir de la ligne 46, regardez bien. « Mais l'esprit de vérité découvre peu à peu la réponse à l'observateur attentif. Non, ce n'est pas d'une bagatelle qu'il s'agit ici. Au contraire, l'importance de la chose en question est en raison directe de la gravité et de l'ardeur des efforts qu'on y consacre. » Donc tant d'énergie, une telle gravité, une telle ardeur des efforts qui lui sont consacrés, tout cela ne peut pas être mis au service simplement d'une bagatelle. Derrière cette apparente comédie, ce qui se joue est autrement plus sérieux, autrement plus profond. Et ce qui se joue, comme va le montrer Schopenhauer, ce qui se joue dans l'intrigue d'amour n'est rien d'autre que la perpétuation de l'espèce. Je cite le texte, ligne 50. Regardez bien ligne 50. Et là, il va falloir bien comprendre. C'est là que nous abordons le point important. Alors, ligne 50, le but dernier de toute intrigue d'amour, qu'elle se joue en brodequin ou en cothurne, est en réalité supérieur à tous les autres buts de la vie humaine et mérite bien le sérieux profond avec lequel on le poursuit. Ce qui se décide là, c'est bel et bien la composition de la génération future. Fin de citation. Alors, vous allez me dire, franchement, c'est pas convaincant. Et les amants, s'ils entendaient ce genre de propos, seraient les premiers surpris, pour ne pas dire les premiers scandalisés par ce genre de formule. Ils seraient scandalisés de s'entendre dire que ce qu'ils recherchent à travers leur amour, à travers leur quête amoureuse, n'est autre chose que la composition de la génération future. Mais franchement, déliré. C'est pas ce que nous recherchons, nous, dans notre amour. À leurs yeux, ce qui les anime seulement, c'est la quête de l'autre. C'est la quête de l'objet aimé, qu'ils aiment, disent-ils, pour son charme, pour sa beauté, pour son rayonnement, et mille autres choses encore. Hein. Un je ne sais quel charme encore vers vous m'emporte, etc. Bon. Mais aimer pour eux, bien sûr, c'est désirer un individu choisi entre tous les autres, élu pour des raisons qu'ils se représentent consciemment. Ainsi, l'amour qu'ils ressentent n'a, selon eux, strictement rien à voir avec la perpétuation de l'espèce. Or, comme va l'expliquer Schopenhauer, c'est bien en cela qu'ils sont dans l'illusion. Ça qu'il va falloir comprendre. Ils sont dans l'illusion en ce qu'ils ressentent comme un besoin exclusivement personnel, c'est ce qui est de l'ordre d'un intérêt qui les dépasse et qui est l'intérêt universel de l'espèce. Et cette illusion s'explique précisément par le vouloir vivre, par la volonté, qui utilise ce stratagème, donc le stratagème de l'illusion, pour se reproduire à travers la reproduction des espèces. Donc, ici, vous voyez que l'amour, c'est une illusion qui permet à l'instinct sexuel d'entrer en activité et de viser la composition de la génération future. Alors même que les amants ne croient viser rien d'autre que la satisfaction de leur désir amoureux. Je cite Schopenhauer dans le texte numéro 4, vous avez à droite, colonne de droite, page 1. Il est très clair ce texte, vous allez voir. Dans cet état de choses, texte numéro 4, colonne de droite, dans cet état de choses, la nature ne peut atteindre son but qu'en faisant naître chez l'individu une certaine illusion, à la faveur de laquelle il regarde comme un avantage personnel ce qui en réalité n'en est un que pour l'espèce. Si bien que c'est pour l'espèce qu'il travaille, quand il s'imagine travailler pour lui-même, il ne fait alors que poursuivre une chimère qu'il voltige devant ses yeux, destinée à s'évanouir aussitôt après, et qui tient lieu d'un motif réel. Alors, d'ailleurs, Schopenhauer écrira plus loin que l'illusion amoureuse fait des amants des dupes de l'espèce. Des dupes de l'espèce. En définitive, si on a bien compris ce que dit Schopenhauer, ce n'est jamais l'individu amoureux qui veut. Ce n'est pas lui qui aime telle ou telle personne. Ça, c'est ce qu'il croit. C'est ce qu'il se représente, consciemment. Ce qu'il recherche, ce n'est pas telle ou telle femme. Ce qu'il recherche vraiment, la force qu'il recherche à travers lui, ce n'est pas autre chose que l'espèce elle-même qui cherche à se reproduire et qui se sert de lui, au fond, comme d'instrument, en nourrissant l'illusion d'amour et en le mobilisant grâce à cette illusion pour reproduire l'espèce. Donc, vous voyez que c'est l'espèce qui, à travers la mobilisation de l'instinct sexuel de l'individu, grâce à l'illusion amoureuse, veut sa propre reproduction. Et donc, il faut faire la distinction entre ce que l'individu croit de l'amour et puis la réalité de l'amour. Donc, c'est l'espèce qui désire par son intermédiaire. Et en expliquant ainsi l'amour, Schopenhauer est tout à fait conscient, bien sûr, du caractère absolument iconoclaste de son propos. Voyez, il écrit par exemple, regardez le texte, revenez au texte numéro 2, le début. Je ne peux guère compter d'ailleurs sur l'approbation de ceux même que cette passion domine et qui cherche à exprimer la violence de leurs sentiments par les images les plus sublimes et les plus éthérées. Ma conception de l'amour leur paraîtra trop physique, trop matérielle, si métaphysique et si transcendante qu'elle soit au fond. Ah, évidemment, les bonnes âmes amoureuses sont scandalisées par mon propos. C'est clair qu'elles n'auront pas envie de m'entendre. Bon. Donc les amoureux, effectivement, sont très loin de penser que c'est l'espèce qui désire par leur intermédiaire pour se reproduire. Et pourtant, quand ils éprouvent de l'amour, ils montrent combien ils sont asservis aux seuls intérêts de l'espèce. Pour le dire avec brutalité, on va le dire avec brutalité, mais c'est le fond de la pensée de Schopenhauer. Pour le dire avec brutalité, l'amour est chez l'être humain ce que le rut et les chaleurs sont dans le règne animal. Alors, on pourra objecter, on aura raison. Alors, on objectera, mais pourquoi alors, chez l'homme, cela ne se passe pas comme chez l'animal, de façon directe, par la pure application de l'instinct, de l'instinct sexuel? Pourquoi ça ne se passe pas comme l'animal, alors, puisque vous dites que c'est l'équivalent, l'amour, du rut et les chaleurs qui sont éprouvées par l'animal? Pourquoi ça ne se passe pas de la même manière? Pourquoi tant de détours? Pourquoi tant de cinéma? Pourquoi la nature a-t-elle dû inventer, concernant l'homme, le stratagème de la passion amoureuse? Alors, réponse. Ben, précisément. Parce que l'homme est un animal chez lequel l'instinct sexuel est plus nettement individualisé. Notez bien l'adjectif. C'est un animal chez lequel l'instinct sexuel est plus nettement individualisé. Je vais expliquer. C'est-à-dire que la manifestation de l'instinct est accompagnée de conscience chez l'homme. Et ça change tout. Elle est accompagnée de conscience, et c'est pourquoi, évidemment, la manifestation de l'instinct a besoin de mobiliser des représentations, de mobiliser des fantasmes, si vous voulez. Et ce que dit ici Schopenhauer est vrai de toutes les formes d'amour, de l'amour le plus grossier, le plus passager, à l'amour le plus sublime, le plus spiritualisé. Vous voyez ce que dit Schopenhauer, ligne 10 à 14. C'est peut-être là qu'on a un passage essentiel. Hein, regardez, ligne 10 à 14, c'est souligné d'ailleurs. Toute passion, en effet, quelque apparence éthérée qu'elle se donne, a sa racine dans l'instinct sexuel. Ou même n'est pas autre chose qu'un instinct sexuel plus nettement déterminé, spécialisé, ou au sens exact du mot, individualisé. C'est pour ça qu'on peut dire, hein, j'ai mis ça en titre d'ailleurs, que l'amour, c'est l'instinct sexuel individualisé, selon Schopenhauer. Alors, il faut bien comprendre ce point. En tant que l'instinct sexuel est la racine de l'amour, il est la racine de l'amour, hein, faut vraiment considérer ce terme. L'amour humain a une origine animale. C'est clair. L'homme ne diffère pas fondamentalement des animaux. C'est un animal. Et on ne peut pas comprendre l'amour humain sans le rapporter à son soubassement instinctif. On ne peut pas parler de l'amour comme quelque chose comme ça qui tombe du ciel. Et c'est vrai que quand on lit les Grecs, les anciens, par exemple, dans le banquet de Platon, parlent de l'amour comme une puissance divine. Vous voyez, quelque chose qui... Bah, vous voyez, on peut avoir cette impression que c'est une puissance qui n'a rien de terrestre. Vous voyez, bon. Mais chez l'homme, bon, c'est vrai que l'instinct est donc à la racine de l'amour. Mais chez l'homme, l'instinct sexuel ne se manifeste pas à l'état brut. Il passe par une individualisation, c'est-à-dire qu'il se détermine en un désir individuel qui se représente un objet individuel sur lequel il se fixe et se concentre. C'est ce que Stendhal appellera la cristallisation. C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez une base instinctuelle, bon, effectivement, mais il y a une individualisation au sens où c'est éprouvé comme un sentiment individuel qui va se porter sur un objet individuel. Il y a une détermination, vous voyez ? Et pourquoi il y a cette détermination ? Parce que ça passe par la représentation, par la conscience. Vous voyez ? Et comme le montre ensuite Schopenhauer, l'intensité de la passion amoureuse est fonction de son degré d'individualisation, c'est-à-dire de l'importance accordée ici à l'objet aimé. Quand ce sont des amours passagères, ma foi, bon, la personne que l'on aime n'a pas une importance considérable. Si on n'en voit plus, on n'est pas malade. Par contre, quand il s'agit d'une passion vraiment extrêmement intense, alors là, un seul être vous manque, bon, et tout est dépeuplé. Bon, vous voyez, là, c'est autre chose. Hein, mais oui, il y a plusieurs degrés. Et plus la passion est individualisée, plus elle est intense. Et plus elle se réduit, moins elle est individualisée, plus elle tend à se... Je ne dis pas qu'elle puisse totalement se ramener à l'instinct sexuel, mais elle tend à, vous voyez, à être relativement indifférente à l'objet. Effectivement, elle est moins intense. Bon. Donc il y a des degrés, on est d'accord. Ainsi, donc, vous voyez, chez l'homme, le vouloir vivre, la volonté, se manifeste en produisant dans l'intellect de l'homme des représentations conscientes dont l'individu ignore les racines inconscientes. Vous voyez ? les représentations, ici, conscientes, dont je vous parle, ce sont les représentations qui se portent sur un objet individualisé, sur l'objet aimé. Et par là, l'illusion amoureuse est l'instrument de l'instinct sexuel. C'est-à-dire que le vouloir vivre trouve, grâce à l'illusion amoureuse, il trouve, par le moyen de l'illusion amoureuse, il trouve le moyen de reproduire l'espèce en faisant naître un enfant. Alors, c'est pas ce que veulent forcément les amants. Ils pensent pas à ça. Mais c'est vers ça que ça tombe. Et si on veut bien comprendre l'analyse, et même quand ils ont faut prendre des précautions pour qu'il n'y ait pas une naissance, il n'empêche que c'est ça qui les pousse. Et si on veut bien comprendre ici l'analyse de Schopenhauer, il faut, je crois, écarter deux contresens. Parce que c'est une analyse qu'on risque toujours de, je dirais, de mal comprendre. Donc, pour bien la comprendre, je crois qu'il faut détecter les contresens qu'on risque de commettre, et puis justement les écarter. Alors, le premier contresens, c'est qu'on est tenté de penser que Schopenhauer réduit l'amour humain, à l'instinct sexuel. Non, il ne réduit pas l'amour humain à l'instinct sexuel. Dire que l'amour humain a sa racine dans l'instinct sexuel, ce n'est pas l'y réduire. Si l'amour humain se réduisait à la simple mise en œuvre de l'instinct sexuel, il suffirait d'appeler, comme notre président, les citoyens au réarmement démographique. Et ça suffirait à assurer le renouvellement des générations futures de citoyens français. C'est pas comme ça que ça se passe. Faut lui expliquer. Donc, l'illusion amoureuse, vous voyez, elle est tout de même nécessaire. Elle est nécessaire pour mobiliser les individus. Hein ? L'illusion amoureuse, c'est ça la pointe avancée de l'attaque. Hein, si on veut vraiment réarmer. Eh bien, elle est nécessaire et pour les conduire à travailler justement au renouvellement de l'espèce. Et elle est d'autant plus nécessaire que cette finalité, elle est souvent loin d'être compatible, comme va le montrer ensuite Schopenhauer, elle est souvent loin d'être compatible avec le bonheur personnel. C'est ça que nous allons comprendre au fur et à mesure du propos de Schopenhauer, c'est que, au fond, l'intérêt de l'espèce, c'est pas tout à fait la même chose que l'intérêt de l'individu. Et même souvent, ça se retourne contre l'individu, il s'en aperçoit plus tard, quand c'est trop tard. Hein, vous voyez ? Et voilà tout le problème. Et si effectivement, il n'y avait pas d'illusion, l'individu, il resterait bien tranquille. Il ne montrerait aucun zèle, à réarmer. Voilà. Alors, donc, vous avez un texte, là, texte numéro 6, regardez. Texte numéro 6, page ligne 1 à 11. Partout, en effet, c'est page 2, partout, en effet, l'instinct agit comme en vue d'une certaine fin, et cependant, sans se la proposer. La nature le fait naître là où l'individu qui doit agir serait incapable de comprendre le but ou refuserait de chercher à l'atteindre. Ainsi, l'instinct, en règle générale, n'est-il guère donné qu'aux animaux, et surtout aux animaux inférieurs, aux plus dépourvus d'intelligence. Mais il a été aussi donné à l'homme, à peu près pour le seul cas en question, car l'homme, bien que très capable de concevoir la faim, n'y travaillerait pas avec le zèle nécessaire, surtout aux dépens de son bonheur personnel. Parce que s'il fallait que l'homme se dise « Oui, bon, allez, ce soir, on va reproduire l'espèce, on va réarmer. » Bon, franchement, ça ne serait pas une motivation suffisante. C'est la philosophie, ça sert à comprendre ces choses-là. Donc, vous voyez. Alors, donc, deuxième contresens, on est tenté de penser que si vous décrivez l'amour comme une illusion, vous lui ôtez toute réalité. Quand vous entendez le mot illusion, vous êtes tenté de penser ça veut dire que ça n'a pas de réalité. Non, ça sera un contresens, bien sûr. Illusion ne veut pas dire que l'amour n'existe pas. Mais cela veut dire simplement que les amants se trompent sur la vraie nature de leurs sentiments. Mais ici, il faut bien mesurer que sans l'illusion, l'amour n'existerait pas. L'amour est inséparable de l'illusion. Il n'existe que comme illusion. Et s'il n'y a plus illusion, ben, il n'y a plus d'amour et il n'y a plus de mobilisation. C'est l'illusion qui constitue le dynamisme de la passion amoureuse. C'est elle qui en fait l'instrument efficace de l'instinct sexuel et la reproduction d'espèces. Et sous cet angle, qui est le seul vrai point de vue sous lequel on doit se placer quand on veut connaître la réalité de l'amour, ben, du point de vue de l'espèce, l'essentiel, c'est le résultat. C'est le seul qui compte. Peu importe le roman d'amour. Peu importe le roman d'amour qui permet d'y aboutir. Peu importe qu'il s'agisse d'amour éphémère de vacances ou d'une grande passion amoureuse. Ils s'en fichent, la nature. Hein ? L'essentiel, c'est que la nature ait fait son œuvre. Et vous voyez, je cite Schopenhauer, regardez texte numéro 3. Texte numéro 3, toujours page 1, en haut à droite. J'ai souligné, en haut à droite. La procréation de tel enfant déterminé, voilà le but véritable. Quoi qu'il n'y aurait des acteurs de tout roman d'amour. Mais les moyens et la façon d'y atteindre sont choses accessoires. Alors, bien sûr, en écrivant ces lignes, Schopenhauer, encore une fois parfaitement conscient, brutalisé et scandalisé, comme il dit, les âmes amoureuses, surtout à son époque, au XIXe siècle, dans une période romantique où l'amour est idéalisé, hein, surtout au début du XIXe siècle. Et alors, pour ça que je lis le commentaire qui vient après, regardez bien, il a beaucoup d'humour en même temps, hein. « J'entends ici les cris qu'arrachent aux âmes élevées et sensibles, et surtout aux âmes amoureuses, le brutal réalisme de mes vues. » Et cependant, l'erreur n'est pas de mon côté. C'est pour ça que c'est assez plaisant à lire, Schopenhauer. Il y a souvent de l'humour, hein, une certaine forme d'ironie. Bon. Alors, oui, effectivement, le philosophe... Il ne cherche pas à entretenir les hommes dans l'illusion. Il cherche à connaître la vérité. Il cherche à expliquer la réalité de l'amour. Et d'ailleurs, de son réalisme, de sa volonté de regarder en face le véritable visage de l'amour, eh bien, lui sauront gré un certain nombre d'écrivains, comme Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, qui comptera parmi les plus grands admirateurs de Schopenhauer. Alors, c'est plutôt la deuxième moitié du 19e siècle, ça, si vous voulez. Ça vient après. Flaubert, hein, aussi. Bon. Et dans un texte des auteurs réalistes, hein, voyez, qui en même temps dépeignent l'illusion, qui savent montrer, hein, les fantasmes, leur activité, mais qui en même temps, vous voyez, montrent les choses telles qu'elles sont. Et dans un texte assez court que j'avais cité en début d'année, qui a été écrit en 1883, qui a pour titre « Auprès d'un mort », je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte, je l'avais envoyé, hein, par Internet, eh bien, Maupassant écrira avec emphase, je le cite, « Schopenhauer a tué l'amour, abattu le culte idéal de la femme, crevé les illusions du cœur. » Et pour lui, c'est bien. Alors, si l'amour n'est qu'une ruse de la nature, destinée à perpétuer l'espèce, bah, les individus, dans ce cadre-là, ils ne sont que des instruments insignifiants au service de l'espèce. Ils ne font que transmettre par leur sexualité la force vitale qu'ils ont reçue de l'espèce pour faire naître d'autres individus. Et vous avez ici un texte que je vous ai photocopié, il se trouve page 4. Alors là, il est tiré du supplément 42, « Vie de l'espèce ». Alors, vous avez donc page 4, et là, vous avez le texte 14, et vous lisez la fin, la dernière phrase qui est soulignée, ligne 16. « L'instinct sexuel peut être regardé comme l'impulsion centrale de l'arbre. En fait, il fait une analogie entre l'arbre, entre un arbre et puis l'espèce. Vous voyez, l'espèce, on peut la comparer à un arbre et, l'individu, la vie de l'individu là-dedans, bah, c'est comme une feuille par rapport à cet arbre. Donc je reprends l'analogie. Hein. L'instinct sexuel peut être regardé comme l'impulsion centrale de l'arbre, donc l'espèce, sur lequel germe la vie de l'individu, semblable à une feuille qui est nourrie par l'arbre et contribue à le nourrir. Et de là viennent la force de cet instinct et les racines profondes qu'il a dans notre nature. D'où vient cette force de l'instinct sexuel de l'espèce? C'est l'espèce, en quelque sorte, vous voyez, qui, en nous, en quelque sorte, exerce son activité par la sexualité. Et voilà pourquoi Schopenhauer peut dire, alors vous retournez à la page 1, je reprends un passage du premier texte qu'on avait lu, en bas à gauche, ligne 55 à 58, vous allez voir, ligne 55 à 58, regardez bien. Voilà pourquoi Schopenhauer peut dire donc des intrigues d'amour, aussi frivoles qu'elles nous apparaissent souvent, je cite, qu'elles servent à déterminer l'existence et la nature des personnages du drame destinés à paraître sur la scène quand nous l'aurons quitté. Je reprends. Elles servent à déterminer l'existence et la nature des personnages du drame destinés à paraître sur la scène quand nous l'aurons quitté. Là encore, vous avez une analogie. Schopenhauer compare la vie des hommes à une scène de théâtre. De notre vivant, nos intrigues d'amour permettent d'engendrer de nouveaux personnages qui nous remplaceront quand nous aurons cessé de vivre, quand nous aurons quitté la scène. Et il y aura ainsi toujours des acteurs de rechange. Et le théâtre se poursuivra, en quelque sorte, qui à leur tour, par leurs intrigues d'amour, donneront naissance à d'autres individus. Et voyez, au fond, si je résume, quel est notre destin à nous? Pourquoi naissons-nous? Nous naissons pour faire naître. Nous naissons pour faire naître d'autres individus. C'est ça notre mission. C'est tout. Selon un processus sans fin, qui est celui du vouloir vivre, qui se reproduit à travers la reproduction des espèces. Et le vouloir vivre, ici, il se veut lui-même, en quelque sorte. C'est un processus sans fin qui n'a absolument aucune raison d'être, qui se répète indéfiniment, qui est dénué de toute finalité. C'est ça, le vouloir vivre, voyez. Alors, montrer que l'amour n'a d'autre destination que la perpétuation de l'espèce, évidemment, vous vous en doutez, c'est accorder un rôle prépondérant à l'instinct sexuel. Et les analyses du supplément 44, comme je viens de vous le dire, s'appuient sur celles du supplément 42, chapitre très court, qui a pour titre « Vie de l'espèce ». Alors ici, vraiment, c'est quelque chose à noter. L'importance accordée par Schopenhauer à l'instinct sexuel fait qu'on peut parler à son propos d'un véritable pansexualisme. Alors on a reproché à son époque, à Freud, de tout ramener à la sexualité, de voir la sexualité partout. Eh bien, chez Schopenhauer, déjà, c'est bien pire. C'est encore beaucoup plus net. Hein? Et ici, on peut lire deux extraits significatifs qui se trouvent dans le supplément 42. Alors, vous prenez votre page 4, et je veux lire ici deux extraits qui, pour moi, sont assez parlants. Et vous avez le texte 14, le début, vous voyez. Il écrit au début, « Dans les compléments au second livre, j'ai comparé la volonté, alors, vous voyez en quel sens il parle de la volonté, encore une fois. Hein. J'ai comparé la volonté à la racine, l'intellect à la cime de l'arbre. Rien de mieux au point de vue interne ou psychologique, mais au point de vue externe ou physiologique, les parties génitales sont la racine, la tête, le sommet. La force, elle vient des parties génitales. Vous voyez ? Et puis, vous avez un deuxième texte qui se trouve tout en bas. C'est le texte, alors c'est le texte numéro 16, mais ligne 27 à 35. Ligne 27 à 35. Et alors là, vous avez des formules fortes. Hein. Et tous ces faits s'accordent avec l'idée que l'instinct sexuel est la substance de la volonté de vivre, qu'il en représente ainsi la concentration. Aussi avait justement appelé dans mon texte les parties génitales le foyer de la volonté. Bien plus, on peut le dire, l'homme est un instinct sexuel qui a pris corps. Sa naissance est un acte de copulation. Le désir de ses désirs est un acte de copulation et seul cet instinct rattache et perpétue l'ensemble de ces phénomènes. Au 19e siècle, eh bien, l'instinct sexuel, vous voyez, il occupe donc une place centrale, hein, puisqu'il est la racine de notre existence. Et de tous les instincts, c'est le plus puissant, explique Schopenhauer. Plus puissant même que l'instinct de conservation. L'instinct de conservation individuelle. Puisque pour assouvir l'instinct sexuel, l'homme, comme l'animal d'ailleurs, sont prêts à braver tous les dangers. L'homme est prêt à courir le risque de la mort pour satisfaire l'instinct sexuel. Et Schopenhauer ne cesse d'insister sur la toute-puissance de l'instinct sexuel, sur son omniprésence. Et là encore, regardez bien le texte, toujours le même texte, le texte 16, on va lire là, progressivement le texte, il y a des formules assez étonnantes, il faut même vous mettre dans l'idée que c'est écrit en 1818. On s'imagine que c'est toujours Freud qui est le premier, non, Schopenhauer. Je lis, à tout cela répond le rôle important que jouent les rapports sexuels dans le monde humain, où ils sont, à vrai dire, le centre invisible de tous les actes et de tous les faits, qui ressort de toutes parts sous les voiles dont on essaie de le couvrir. L'instinct sexuel est cause de la guerre et but de la paix. Il est le fondement de toute action sérieuse, l'objet de toute plaisanterie, la source inépuisable des mots d'esprit, la clé de toutes les allusions, l'explication de tout signe muet, de toute proposition non formulée, de tout regard furtif, la pensée et l'aspiration quotidienne du jeune homme et souvent aussi du vieillard. Eh oui. Et alors, donc, ensuite, regardez bien, j'ai perdu mon texte, il est toujours une matière à raillerie toute prête, justement parce qu'il est, au fond, la chose du monde la plus sérieuse. Alors, ça, c'est, je crois, voilà, un texte intéressant, hein, quand même. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée, évidemment, est très simple à comprendre, c'est que chez l'homme, toutes les activités, tous les intérêts sont en fait dominés, dirigés, consciemment ou inconsciemment, par l'instinct sexuel. Pas seulement l'amour, hein. Tout, indirectement, il est là, en permanence, partout, en toute activité. Et donc l'homme est constamment sous l'emprise de quelque chose qui le dépasse et qui le mobilise, qu'il se l'avoue ou non, d'ailleurs. Et qui s'exprime, par exemple, à travers les plaisanteries, le nombre de plaisanteries, hein, qui indirectement ont rapport à la sexualité, le nombre de mots d'esprit, le nombre d'allusions. Vous voyez, il est constamment présent. Hein. Donc, il est extrêmement puissant, extrêmement présent, et il a une telle puissance que, comme le souligne ensuite Schopenhauer, c'est en vain que l'intellect, la tête, prétend l'ignorer. Parce qu'au fond, on fait tout pour le mettre de côté, pour ne pas en parler, pour le réprimer, pour le refouler. Vous voyez ? Eh bien, regardez la suite du texte. Ligne 15, 16. Le côté piquant et plaisant du monde, c'est que l'affaire principale de tous les hommes se traite en secret et s'enveloppe ostensiblement de la plus grande ignorance possible. Mais en fait, on voit à tout moment cet instinct se placer lui-même en maître véritable et héréditaire du monde, par la seule plénitude de son pouvoir, sur son trône séculaire et jeter de là des regards méprisants, mêlés de rire, sur les dispositions prises pour l'enchaîner, pour l'emprisonner, pour le borner tout au moins, et là où il est possible, pour l'étouffer tout à fait, ou le maîtriser, en tout cas de façon à ne le laisser paraître au jour que comme une affaire secondaire et toute subalterne. On aura beau faire, hein, pour le réprimer, pour le refouler, pour le dissimuler, il est là, et il se montre. Hein, voyez. Donc ça c'est, voyez, toutes les morales répressives n'y feront rien. Hein, vous voyez, l'idée c'est ça. Alors le rapprochement avec Freud, évidemment, évidemment, fondateur de la psychanalyse, est tentant, c'est clair. Et Freud, il n'était pas très honnête là-dessus. Ouais. Pas très honnête. Il a longtemps dit qu'il n'avait pas lu Schopenhauer. Il l'avait lu, bien sûr, comme tous les contemporains. Hein. Et dans un article qui s'appelle « Une difficulté de la psychanalyse », en 1917, Freud reconnaît que Schopenhauer est le premier à avoir souligné l'importance de la sexualité dans la vie humaine. Et d'ailleurs, avant Freud aussi, ça c'est remarquable, Schopenhauer, ça on n'a pas le temps de voir, Schopenhauer explique un certain nombre de phénomènes psychopathologiques par un mécanisme de refoulement. Il est le premier à parler du refoulement, Schopenhauer. C'est déjà présent, l'idée est déjà présente. Chez Schopenhauer, vous verrez, il y a un supplément consacré à la folie, hein, que vous pouvez lire, pas très difficile à lire. Mais s'il y a tout de même, s'il y a entre ces deux penseurs une parenté indéniable, hein, il y a tout de même des divergences qu'il faut relever. Alors, je les relève très rapidement. D'abord, Freud s'écarte de Schopenhauer en n'appréhendant pas la sexualité à partir de sa fonction de reproduction d'espèces, mais à partir de sa visée de plaisir. Et alors, sous cet angle, Freud a montré que la sexualité humaine se manifeste par sa capacité à s'écarter, justement, de la fonction reproductrice naturelle. Vous voyez, la sexualité, elle n'est pas assignée complètement, elle n'est pas totalement dépendante, justement, de la reproduction sexuelle. Et contrairement à Schopenhauer, Freud, vous le savez, envisage une histoire individuelle de la sexualité dont les étapes marquantes sont celles de la petite enfance. Et d'ailleurs, Freud écarte le terme d'instinct. Il préfère celui de pulsion. Et pourquoi ? Parce que quand vous parlez d'instinct, vous déterminez à l'avance un but et un objet. Alors effectivement, si vous regardez ce que dit Schopenhauer, l'instinct, c'est l'instinct de reproduction. Et puis, le but, c'est le sexe opposé. Bon. Freud ne raisonne pas ainsi. Au départ, la pulsion sexuelle, elle est indéterminée. Elle est indéterminée. C'est-à-dire que son destin va dépendre, au fond, de l'histoire de l'individu. Son objet n'est pas fixé par avance. Hein. Et elle est, au départ, indéterminée et elle est éclatée en plusieurs pulsions. Pulsions partielles. Qui proviennent de différentes parties du corps. Hein, bon. Et c'est au cours de l'histoire de l'individu que la sexualité vient s'unifier sous le primat d'une pulsion. En général, c'est la pulsion génitale, celle qui va rendre apte à la reproduction. Mais ça peut évoluer d'une autre façon. Hein. Vous voyez, vous avez ici, chez Freud, une approche génétique de la sexualité qui n'existe pas, hein, bien sûr, chez Schopenhauer. Et cette conception conduit d'ailleurs Freud à élargir la notion de sexualité. Vous voyez, pour Schopenhauer, la sexualité, c'est seulement ce que Freud appellera la génitalité, ce qui permet la reproduction d'espèces. Pour Freud, la sexualité, elle peut être diverse. Elle n'est pas forcément liée à la génitalité. Et évidemment, c'est pour ça qu'il y a une sexualité infantile. Hein. Alors, vous voyez, cette divergence est importante et c'est ce qui fait d'ailleurs que pour Freud, contrairement à Schopenhauer, la sexualité, elle commence bien avant la puberté, elle est déjà là dès la petite enfance, alors que pour Schopenhauer, bah, il reprend l'idée classique, la sexualité, elle commence à la puberté. Oui. Et pour lui, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans un passage, l'enfant n'est pas sous l'emprise de l'instinct sexuel, il peut s'ouvrir à la connaissance du monde beaucoup mieux que l'adolescent et l'adulte, qui sont sous l'emprise de la sexualité. Vous voyez, il y a des différences, tout de même, très intéressantes. Et, alors, évidemment, il y en a une autre aussi, bon, c'est, mais là, c'est plus tardif, c'est qu'après la guerre 14-18, Freud admet l'existence d'une autre pulsion que la pulsion sexuelle, c'est la pulsion de mort. Bon, ça, c'est quelque chose qui viendra plus tard. Et puis, enfin, et surtout, je termine cette petite parenthèse, évidemment, la démarche n'est pas la même. Schopenhauer ne cherche pas une analyse psychologique à des fins thérapeutiques. Hein ? Il ne s'agit pas de soigner les névroses. Il prétend fournir une explication métaphysique. Il produit une métaphysique de l'amour, tout à fait différente. Et pourquoi ce terme de métaphysique ? Parce que l'amour renvoie à ce principe métaphysique qui est la volonté, qui est le vouloir vivre. Hein ? Qui se manifeste à travers la reproduction des espèces. Vous voyez ? N'oubliez pas la différence. Bon, donc, je ferme cette parenthèse, mais je crois que c'était utile. Maintenant, si on sait que l'amour n'est pas autre chose qu'une illusion au service de la reproduction d'espèces, le problème qu'il va falloir se poser maintenant, c'est celui de savoir comment se fait le choix de l'objet d'amour, sachant qu'il ne s'agit pas d'un véritable choix, qui reposerait sur des critères personnels, qui serait établi en conscience par l'individu amoureux. Hein ? Il faut être clair là-dessus. Ou pour parler comme Schopenhauer, je reformule mon problème, comment opère le génie de l'espèce ? C'est l'expression qu'il emploie. Ou si vous voulez, comment opère le vouloir vivre ? Comment opère le vouloir vivre pour unir les amants en vue d'un enfant à venir ? Comment le vouloir vivre va-t-il, en quelque sorte, faire en sorte qu'ils soient attirés l'un par l'autre ? Comment ? De quelle manière ? Comment s'explique leur attirance mutuelle, sachant évidemment que les amants n'en connaissent pas la véritable raison. Comment ça se fait tout ça ? Ou pour le dire encore d'une autre façon, qu'est-ce qui pousse un individu à croire qu'il ne peut trouver satisfaction qu'avec tel autre individu déterminé ? Parce que s'il y a amour, il y a comme une élection. Hein. Pourquoi cet individu-ci, pas tel autre ? Pourquoi les amants, vous voyez, s'attirent-ils ? Eux, et pas d'autres. Vous voyez, c'est ça la question qui est intéressante. Et une grande partie du supplément 44 est consacrée à l'examen de ce problème. Et le problème, il est formulé dans le texte numéro 7, page 2. Texte numéro 7, page 2. Hein, vous avez trouvé. Ça va ici déterminer toute la suite du texte. Je lis. Mais il faut aller au fond des choses pour nous convaincre pleinement que cette satisfaction fournie par un autre sexe, si objective qu'elle puisse nous paraître, n'est autre chose qu'un instinct déguisé, c'est-à-dire que le sens de l'espèce préposé à la conservation du type, Le moyen d'y parvenir, c'est de rechercher de plus près les considérations qui nous dirigent dans notre choix et de les examiner dans le détail. Quelque étrange figure que puisse faire dans un ouvrage philosophique les particularités que je vais signaler ici. Ces considérations sont de plusieurs sortes. Les unes concernent directement le type de l'espèce, c'est-à-dire la beauté. D'autres ont trait aux qualités psychiques. Il en est d'autres, enfin, toutes relatives. Elles proviennent de la nécessité de corriger ou de neutraliser les unes par les autres, les imperfections et les anomalies des deux individus. Nous allons les examiner une à une. Alors, je vais suivre le plan indiqué par Schopenhauer. Donc, il y a deux types de considérations qui nous orientent dans nos choix, si on peut parler de choix. D'abord, il y a des considérations générales qui concerne directement le type de l'espèce. Ce sont toutes les considérations qui se rapportent directement à la procréation et qui lui sont favorables. Et alors, je ne vais pas étudier ça dans le détail. Parmi ces considérations, il y a l'âge, il y a la santé, et il y a la conformation du corps, et puis il y a la plénitude des chairs. Alors, c'est là que vous trouvez les passages, disons, les plus discutables, hein, de Schopenhauer. Hein. On va en reparler, je vais vous en donner une idée. À notre insu, qu'est-ce que veut montrer Schopenhauer ? À notre insu, ce sont ces considérations qui sont opérées, qui sont, comme il dit, méditées par le génie de l'espèce, qui guident les choix des amoureux. Et parmi ces considérations générales, il y en a qui concernent d'abord le physique, celle que je vous ai citée, et puis il y a ensuite des considérations qui concernent les qualités psychiques. Alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est dans ces pages-là que s'exprime surtout la misogynie et des préjugés sexistes de Schopenhauer, et on pourrait presque dire aussi il y a des préjugés eugénistes. Hein, on pourrait le dire. Alors, je vous donne un exemple, hein, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Vous voyez, par exemple, je lis ceci. « En général, nous recherchons l'âge compris entre l'apparition et la fin de la menstruation. Mais c'est aux femmes de 18 à 28 ans que nous donnons nettement la préférence. Au-delà de cet âge, au contraire, une femme ne peut plus nous attirer. » Bon. il faut le dire, hein, il faut le citer. C'est écrit. Hein. Alors, c'est les préjugés de Schopenhauer, c'est les préjugés de son époque. Il faut aussi dire qu'à l'époque, on était vieux assez vite. C'est vrai. Quant aux considérations concernant les qualités psychiques, Schopenhauer se fonde sur le principe d'une hérédité des qualités propres au genre masculin et au genre féminin. Alors, c'est pas compliqué, mais enfin, c'est une assertion, c'est une affirmation qui peut paraître tout à fait arbitraire. L'homme hérite ainsi de son père ses qualités morales, tout ce qui a trait à la volonté. Tout ce qui a trait à la volonté, l'homme l'hérite de son père. Et, c'est-à-dire son caractère, ses penchants, et ce qu'il hérite de sa mère, c'est tout ce qui a trait à l'intellect. Les qualités intellectuelles. Et Schopenhauer écrit ainsi que la femme, je vous donne un exemple, hein, la femme est généralement attirée par les qualités du cœur et du caractère dans l'homme, étant donné que l'enfant les tient de son père. Et c'est pourquoi il écrit que le manque d'intelligence d'un homme ne lui fait pas du tout tort auprès des femmes, pas du tout. Je lis, c'est même amusant, on peut lire. Et une grande supériorité d'esprit, le génie même, pourrait plutôt leur paraître une anomalie et exciter leur défaveur. Elles aiment bien les hommes un peu bruts, quoi. Bon. Aussi, est-ce une chose fréquente qu'un homme laid, sot et grossier, l'emporte auprès des femmes, sur un homme beau, plein d'esprit et aimable. On aime bien les bêtes. C'est un peu l'idée, hein. Bon, enfin, s'il y avait que ça dans le texte, bon, évidemment, ce ne serait pas... Et puis, parmi les conditions, après les conditions absolues, celles que je viens de vous citer, alors celles qui se rapportent à la procréation, hein, vous avez les conditions relatives, celles qui sont propres aux individus et qui permettent de corriger leurs imperfections, si vous voulez. La règle, en quelque sorte, c'est ici que chacun aime chez l'autre ce qui lui fait particulièrement défaut. Alors, bon, je ne vais pas tout citer, il en est ainsi de la force musculaire. Si on n'est pas assez fort, ben, en cherchant l'autre, quelqu'un de plus fort, etc. La taille, le tempérament, la conformation du visage, du teint, etc. Et je lis cet extrait. Chaque être humain a besoin de l'organisation individuelle opposée à la sienne pour la réalisation complète du type de l'humanité dans l'individu qui va naître. Et c'est ainsi, alors là aussi encore un passage tout à fait remarquable, c'est ainsi qu'il est nécessaire qu'il y ait une corrélation entre un certain degré déterminé de sexualité masculine et un certain degré déterminé de sexualité féminine. Je cite, « Ainsi l'homme le plus homme cherchera la femme la plus femme. Et inversement. Alors, comme on le voit, vous voyez, Schopenhauer considère qu'il y a un éternel masculin et un éternel féminin. Bon, alors, vous voyez, je laisse ces quelques pages qui expriment, bien sûr, les préjugés de Schopenhauer, et pas seulement de lui, hein, son époque, très largement. Mais je retiens surtout, si avec ça, je vous dis encore une fois, le texte, franchement, il tombera des mains. Mais ce que je retiens surtout, c'est ce qu'il dit du jugement sur la beauté, qui me paraît, lui, beaucoup plus intéressant et plus original. La question, c'est la suivante. Qu'est-ce qui fait que l'amant juge belle la personne aimée? Alors, il n'y a pas de canon esthétique conscient. Ce n'est pas en fonction de critères conscients hein, qui va effectivement déterminer son choix. Non, la personne aimée n'est jugée belle qu'à proportion de la complémentarité qu'elle promet dans la constitution d'un être futur, dans la constitution d'un enfant. Étant entendu, encore une fois, que c'est le vouloir vivre lui-même, le génie de l'espèce, qui détermine ce jugement, avant même l'union physique des amants. Et là, je vous invite à lire le texte numéro 5, page 1. Texte numéro 5, page 1. Regardez bien. C'est ligne 15. L'intérêt de numéroter les lignes, ça va plus vite. Ligne 15, vous voyez, vous avez repéré. Cependant, cette recherche si ardente des avantages physiques, et le choix si attentif qu'elle détermine, ne dépend évidemment pas de l'individu même qui choisit, comme celui-ci le croit, mais bien de la fin véritable, de l'enfant à procréer, qui doit reproduire le type de l'espèce aussi pur et aussi exact que possible. En effet, 1000 accidents physiques, 1000 contrariétés morales altèrent de toute façon la forme humaine. Néanmoins, elle se trouve toujours établie dans son vrai type et dans toutes ses parties, grâce à l'action du sens de la beauté, guide constant de l'instinct sexuel, et sans lequel cet instinct ne serait plus qu'un besoin répugnant. Vous voyez, ça encore confirme l'idée que l'amour ne se réduit pas à un simple instinct. Il y a une élection, il y a un choix, il y a un sens de la beauté, si vous voulez. Alors qui est variable, évidemment, selon les uns et les autres. Là, il n'y a pas de critère universel. Ça va dépendre de la complémentarité qu'on va trouver en l'autre, hein, en quelque sorte. Et, comment dire. Et là, vous pouvez encore poursuivre le texte. Plus bas, ligne 35. Ce ravissement plein d'ivresse qui saisit l'homme à l'aspect d'une femme dont la beauté est conforme à ses désirs et qui fait briller à ses yeux l'union avec cet être comme le comble du bonheur, c'est bien le sens de l'espèce qui, reconnaissant là le caractère nettement marqué de la race au sens de l'espèce, hein, désirait le perpétuer avec cette femme. Vous voyez, au fond, le sens de la beauté, c'est ce que Schopenhauer appelle aussi le sens de l'espèce. Il y a une sorte d'instinct, de don, enfin quelque chose qui fait que, sans réflexion aucune, on va vers tel type de personne. Et sans qu'on l'ait choisi. On croit choisir, mais on ne sait pas vraiment, on ne choisit pas. Enfin, il y a une sélection qui se fait avant qu'on ait consciemment des raisons de se dire d'avoir choisi. Et alors, dans la mesure où le choix des amants est guidé, vous voyez, comme on l'a vu, par une logique étrangère à leur personne. Au fond, ce choix, il est guidé par une logique qui leur est tout à fait étrangère, puisque c'est le sens de l'espèce. Eh bien, on peut expliquer à partir de là deux phénomènes étranges qui, sans la référence à cette logique étrangère, paraîtraient inexplicables. Il y a deux phénomènes qui nous paraissent inexplicables. Le premier, c'est que on voit souvent des personnes qui ne se conviennent pas, enfin qui sont vraiment très mal assorties, s'attirer réciproquement, sexuellement. Étrange. Alors on se dit, ah ben non, ça c'est parce que c'est irrationnel, c'est bon. Non, il y a une explication pour Schopenhauer, on va essayer de voir laquelle. Et puis deuxième, Deuxième phénomène étrange, l'intensité de la passion amoureuse. C'est quand même quelque chose d'étrange. Elle peut aller très loin, elle peut aller même jusqu'à la folie, jusqu'au suicide. Hein, et ça aussi, il faut l'expliquer. Et Schopenhauer a prétendu l'expliquer. Alors, voyons le premier phénomène. Donc, le premier phénomène, il est constitué par l'énigmatique union des contraires dont la nature nous offre si souvent le spectacle. Il peut paraître en effet extrêmement étrange que des êtres très très mal assortis, des êtres que rien ne peut accorder sur le plan personnel, éprouvent l'un pour l'autre une attirance irrésistible. Par exemple, une femme intelligente qui va vers un homme. Alors, pour des raisons personnelles, elle peut estimer que c'est plus intéressant de discuter avec un homme intelligent. Mais pour des raisons profondément sexuelles, non, c'est pas ça qui va l'intéresser. Vous voyez, par exemple, c'est ça que dit Schopenhauer. Alors, l'énigme est dissipée si on comprend que le génie reproducteur de l'espèce procède, bien sûr, selon d'autres considérations que celles des critères de convenance personnelle. Et d'ailleurs, c'est en ce sens que Schopenhauer, à la fin de son supplément 44, fait la distinction entre deux types de mariages. Vous avez les mariages d'amour et les mariages de convenance. Eh bien, contrairement à ce que croient les amoureux se disent « Moi, je veux un mariage d'amour parce que je veux choisir. C'est mon affaire personnelle. » Bon, eh bien non. Un mariage d'amour, ce n'est pas une affaire personnelle. C'est ce que croit l'amoureux. Les mariages d'amour, ils sont conclus non pas dans l'intérêt des individus, mais dans celui de l'espèce, sans que les individus amoureux le sachent. En se mariant par amour, ils s'imaginent travailler pour leur propre bonheur, mais en réalité, encore une fois, leur véritable but leur est étranger. Et ce but, c'est celui de l'espèce. Alors, regardez texte numéro 13. Qui se trouve page 3. Bon, et on va le prendre. On va peut-être pas tout lire, hein, ce texte. Bon, c'est celui-là, hein, où il parle des mariages d'amour. Et, alors, on va pas lire, on va juste lire la fin, la fin du premier paragraphe. Ce que je veux dire, simplement, c'est très souvent, les couples qui sont unis par l'illusion amoureuse, qui forment un mariage d'amour, se caractérisent par leur discordance. Ils ne s'entendent pas, enfin, ils ne sont pas sortis, quoi. Et, comme le montre Schopenhauer, cette discordance éclate au grand jour après que l'union sexuelle a rempli son office et a produit des enfants. Alors, bon, tant qu'ils étaient dans le désir amoureux, que la nature n'avait pas encore produit son effet, donc... Il n'y avait pas eu de procréation, ben, ils étaient éperdument amoureux l'un de l'autre, bon, c'était la passion, etc. Mais voilà, maintenant que la chose est faite, que la nature a produit son œuvre, ils ne se supportent plus. Ils mesurent leur discordance. Et ça se termine très mal. Alors regardez, je lis le texte. Regardez le texte, ligne 10. Cette discordance éclate au grand jour quand l'illusion par un phénomène inévitable s'évanouit. Ainsi, aussi, en règle générale, les mariages d'amour ont-ils une issue malheureuse, car ils pourvoient à la génération future aux dépens de la présente. Vaut mieux un mariage de convenance. Regardez un peu l'argent dont dispose la personne, faites un petit bilan, cochez les cases. Là, vous êtes sûr au moins d'un mariage stable. Oh, ce sera pas la grande passion, mais au moins vous satisferez beaucoup plus facilement dans la durée vos intérêts personnels. Mariage d'amour, bon, c'est beau, hein, c'est tout flamme hein, au départ, mais ça se termine très mal. Alors, toujours est-il que pour les raisons que j'ai indiquées, les unions heureuses sont très rares. Alors, Schopenhauer, qui, encore une fois, ne manque pas d'humour, et qui va nous consoler un petit peu. Encore, ce n'est pas vraiment une consolation, il le pense vraiment. Regardez ce qu'il dit, ligne 30. Ajoutons cependant, pour consoler les âmes tendres et aimantes, qu'à l'amour passionné s'associe parfois un sentiment sorti d'une toute autre source, c'est-à-dire une amitié réelle fondée sur l'accord des esprits, et qui ne commence pourtant presque jamais à apparaître que lorsque l'amour sexuel proprement dit s'est éteint dans la jouissance. Ah, vous avez des couples qui commencent par la fusion amoureuse, la grande passion, et ça se termine pas mal. Ça continue, ça se poursuit. Pourquoi ? Parce que, bon, quand l'amour sexuel s'éteint, il y a une relation d'amitié fondée sur l'accord des esprits. Donc, il peut y avoir une relation qui s'entretient, parce qu'elle est fondée une autre composante, en quelque sorte, qui n'a rien à voir avec l'instinct sexuel. Vous voyez, ça, il le dit. Mais c'est rare, extrêmement rare. Deuxième phénomène qui paraît lui aussi très étrange, donc c'est l'extrême intensité que peut atteindre la passion amoureuse. Et là encore, il faut le dire, c'est le caractère étranger de la passion amoureuse, caractère étranger au sujet amoureux, qui permet d'expliquer son intensité, aussi bien dans la joie qui est éprouvée par les amants quand leur union tant convoitée devient possible, que dans la douleur violemment ressentie lorsqu'elle est contrariée et s'avère impossible. C'est ce que dit le texte numéro 10, page 2. En bas. D'ailleurs, on va se référer à ce texte-là. Et comme l'explique Schopenhauer justement dans ce texte, dans cet extrait, je vais en lire une petite partie, les soupirs de joie et les profondes douleurs éprouvées par les amoureux ne sont pas l'expression d'un simple individu mortel, ce sont les soupirs de joie, ce sont les profondes douleurs, dit-il, du génie de l'espèce, qui seul est éternel et infini. Là, le texte est assez remarquable. Lisons-le ensemble. Lisons la ligne 13 à 20. L'espèce seule a une vie éternelle, et seule par conséquent, elle est capable de souhaits éternels, d'éternelles satisfactions et d'éternelles douleurs. Mais ici, tous ces sentiments sont emprisonnés dans l'étroite poitrine d'un mortel. Il n'est donc pas étonnant que celle-ci paraisse vouloir éclater et ne trouve nul moyen d'exprimer cette attente d'infinie volupté ou de malheur infini qui remplit son âme. C'est-à-dire que c'est assez extraordinaire. C'est au fond, qu'est-ce qui souffre à travers nous ? C'est le génie de l'espèce. Quand nous sommes intensément amoureux, ce n'est pas nous, individus. Il y a quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende, et qui fait que nous souffrons d'une grande intensité, ou que nous sommes joyeux avec une grande intensité. Vous voyez, cette intensité ne s'explique pas par le seul individu. Il y a une dimension infinie là-dedans. Et sans pour autant faire appel, vous voyez, Schopenhauer explique ça sans faire appel à une transcendance divine. Hein. Non, c'est quelque chose, c'est l'espèce hein, qui nous traverse, en quelque sorte. Si la passion amoureuse dépasse les amoureux, c'est bien parce qu'elle procède d'un principe qui excède infiniment les étroites limites de notre individualité, tout en l'investissant. Hein ? Et ce principe, c'est le principe métaphysique que Schopenhauer appelle le vouloir vivre, ou le génie de l'espèce. Dernière chose, aussi intense qu'il paraisse aux amoureux, encore une fois, et c'est le redire, l'amour relève toujours en son fond d'une illusion, puisqu'ils croient travailler pour leur propre bonheur, alors qu'ils travaillent à la réalisation de fins qui ne sont pas les leurs, ils sont les dupes de l'espèce. Ainsi, tôt ou tard, l'illusion amoureuse se paie très cher. Ça se paye très cher, l'illusion amoureuse. Ça se paye très très cher. Elle se paye du prix de la désillusion. Et là, regardez le texte numéro 12. Ligne 3-4. Vous voyez, la passion. Regardez en haut. Texte numéro 12, page 3. La passion reposait sur une illusion qui faisait miroiter aux yeux de l'individu comme précieux pour lui ce qui n'a de valeur que pour l'espèce. Le but de l'espèce, une fois atteint, donc les marmots étant créés, la chimère doit donc disparaître. L'esprit de l'espèce qui s'était emparé de l'individu lui rend la liberté. Donc, ici, c'est ce qui va se passer, un travail de désillusion, déception. La déception qui suit inévitablement l'amour lorsqu'il est satisfait, lorsqu'il a atteint finalement sa destination. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, là, bon, c'est pas expliqué ici, mais enfin, ce que montre Schopenhauer, c'est que cette déception, elle peut alors très facilement se transformer en haine et en ressentiment. C'est-à-dire qu'il semble à l'amoureux, souvent, qu'il ne souffre pas de s'être trompé, lui, mais d'avoir été trompé. Il considère que la personne aimée n'a pas tenu ses promesses, qu'elle l'a berné en lui promettant de le combler. C'est sa faute à elle. Vous voyez ? Donc il y a un amer ressentiment. Et là encore, c'est pourtant pas l'objet du désir, de son désir qui l'a trompé. C'est lui-même qui se trompait sur la nature de son désir. En s'imaginant qu'il pouvait trouver son propre accomplissement. On retrouve ici ce que nous avions dit de l'ennui. Souvenez-vous de ce que nous avions dit de l'ennui. Vous vous souvenez, nous avions dit que pire que la souffrance du désir qui ne trouve pas satisfaction, il y a la souffrance de l'ennui. Souffrance de l'ennui que nous éprouvons quand nous avons obtenu satisfaction de notre désir et que nous n'avons plus rien à désirer. C'est pire que la satisfaction du désir. C'est pire que le désir frustré. Parce que le désir frustré, au moins, vous aurez encore un but à atteindre. Là, il n'y en a plus. L'ennui vous révèle l'absurdité de l'existence. Et bien là, qu'est-ce qui se passe quand l'amour a été satisfait et bon, que, comme le dit Schopenhauer, le but de l'espèce, une fois atteint, la chimère doit donc disparaître. L'esprit de l'espèce qui s'était emparé de l'individu lui rend sa liberté. Ben là, c'est atroce. Là, l'individu mesure le vide de son existence. Son existence lui paraît absurde. Aussi, de la même façon, l'obstacle à la réalisation d'un amour, ou les douleurs qu'occasionne cet amour, sont en un sens bien préférables à un amour consommé. Si vous réfléchissez bien. Parce que l'amour consommé, il ne peut que se conclure que sur le constat de l'insignifiance de l'objet aimé. C'est terrible ce que dit Schopenhauer. Vous vous souvenez du roman de Proust, à la fin, dire que c'était une femme qui n'était pas mon genre. Après, c'était tout un cinéma, et ça se termine comme ça. Vous voyez ? Enfin, mais je me demande ce que j'ai foutu avec elle. Bon, ben c'est ça, si vous voulez, ici. Proust, qui était aussi un admirateur de Schopenhauer. Donc, si on a bien compris, si je lis Schopenhauer, les amours les plus heureuses, au fond, ce sont les amours impossibles. Ce sont les amours impossibles. Roméo et Juliette auraient été bien plus malheureux si c'était mariés. Et grâce à leur famille qui a fait obstacle à leur amour, ben, ils ont pu brûler d'amour, mais d'un amour évidemment non satisfait. Voilà ce que je peux dire, et j'irai pas plus loin. Voilà. Alors j'ai été pris pour ça, par cette lecture, j'ai trouvé ça assez amusant et assez beau même comme texte, avec tous les aspects. Alors, je vous invite à le lire, à le relire, parce que c'est grave. Schopenhauer vous a assommé. Des choses discutables. Bon, les choses bien sont forcément discutables.
Hein. Ah oui, tout à fait.
Bien sûr. Mais enfin, il y a une cohérence.
L'analyse de Freud est quand même beaucoup plus fine.
C'est pas, ouais, mais c'est pas du tout la même perspective. Il n'y a pas cette métaphysique. Oui.
On voit que Schopenhauer a même un terreau pour Freud. Est-ce qu'il aborde la folie?
Alors, Schopenhauer, c'est avant Freud. Hein.
Oui, non. Oui. Schopenhauer, c'est un terreau qui va.
Ah oui.
Freud après.
Oui.
Que lui commence à aborder déjà la folie.
Oui. Vous avez un supplément. Vous avez un supplément. Vous allez voir. Je vais vous l'indiquer.
Oui.
Il parle de la folie, Schopenhauer. Il envisage une explication de la folie par le mécanisme du refoulement. Un problème de mémoire. Enfin, un mécanisme de mémoire. Et là, franchement, si Freud n'a pas lu ça, alors évidemment, il ne va pas le redire de la même manière, exactement. Mais tout y est. Tout y est. Mais bon, Schopenhauer, ça n'intéresse pas. Il prétend pas guérir les névroses, c'est pas un médecin, il n'a pas de visite thérapeutique. Et puis, il a une approche de la folie. Alors, on dit c'est plus fin. Freud, ça pourrait être discuté, après tout. Parce que Schopenhauer n'explique pas la folie uniquement par des mécanismes psychologiques. Il peut y avoir aussi une physiologie qui détermine la folie. Enfin, il aurait une approche qui ne serait pas purement psychanalytique. Ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais on voit bien que Freud, c'est un homme qui a puisé son inspiration dans ce genre de texte. C'est pas que lui, hein, il y a d'autres penseurs comme ça. Il y a déjà l'inconscient, il est déjà là. C'est déjà là. Hein, c'est clair. Et ça, c'est tout de même Schopenhauer qui est le premier à ouvrir ce champ. Même si c'est un penseur discutable par bien des aspects, bon, mais il a tout de même ouvert là-haut. C'est indéniable, indiscutable. Donc vous avez un supplément, hein, il faudrait le retrouver sur la folie, vraiment rien que pour ça, hein, rien que pour cette. Parce que vous savez bien, le monde comme volonté, comme représentation, c'est 4 grands livres, hein, mais ça fait la moitié du bouquin. Ça fait la moitié du livre. Après, le reste, c'est des suppléments. Alors, comme on ne peut pas tout lire, moi, j'ai pas tout lu. Il y a des choses, franchement, il faut de la patience. Hein. Mais, vous voyez, il me semble que de relire les textes que nous avons vus, les suppléments que nous avons vus, par exemple, le besoin métaphysique de l'humanité, chapitre 17, ça, c'est tout à fait lisible. Vous avez des textes, franchement... accessible, hein. Pas trop dur à lire. Bon, si on a déjà un peu travaillé dessus, c'est plus facile. Et donc, je vous dis, vous avez la... Alors, il y a beaucoup de passages sur l'art. Là, on n'a pas traité ça. Hein. On n'a pas traité ça. Mais l'art, évidemment, occupe une place très importante, hein, dans l'œuvre de Schopenhauer. Donc, la folie, oui. Je sais, j'ai vu, il y avait un supplément sur la folie. Il y a un supplément sur l'histoire, ce qui est très intéressant. Très intéressant. L'histoire. Alors, le supplément sur la mort, c'est le plus long. C'est le plus long. Mais c'est vraiment pas si facile. C'est pas facile. Enfin, il y a des choses qu'on peut dire sans trop de difficulté, mais pas évident. C'est pas évident. Et là, je ne me voyais pas, après vous avoir expliqué tout ça, il aurait fallu qu'on aille jusqu'à 1h du matin. Quoi. Ouais. Ah oui, voilà, de la folie. Vous avez le chapitre 32, les suppléments, de la folie. Et il est court, hein. Donc vous voyez, vous pouvez le lire sans problème. Vous avez 4-5 pages là-dessus. Mais il n'y a pas que là. Je pense à d'autres passages dans l'œuvre qui permettent d'éclairer ce problème.
Mais en fait, si je comprends bien, Jacques Honneur, l'amour est en fait la force motrice de la continuation de l'espèce.
Oui.
Qu'en est-il alors? Bon, l'espèce continue, l'enfant est là. L'amour filial.
Ah.
Parce que l'amour filial va transformer en quelque sorte cette, cette force de
alors,
reproduction.
Bon, il y a ma propre ignorance, mes propres limites. Donc, je veux dire par là, je ne suis pas sûr d'avoir lu assez Schopenhauer pour pouvoir très bien vous répondre. Mais enfin, tout de même, c'est vrai que je n'ai pas tellement vu de choses sur l'amour filial. Hein, c'est vrai. Je ne semble pas avoir vu de passage là-dessus. Ou alors, franchement, je ne connais pas assez non plus. Hein. Ah, mais attendez, hein, c'est, vous me prenez une colle, hein, parce qu'en fait, en même temps, je crois qu'il va y avoir des choses là-dessus. Je crois qu'il va y avoir des choses là-dessus. Mais c'est vrai que c'est pas amour sexuel, c'est autre chose. Hein,
c'est peut-être parce que c'est pas son propos, vous disiez que...
C'est pas son propos non plus.
Schopenhauer est le premier à avoir insisté sur l'instinct sexuel qui serait...
Tout à fait, tout à fait.
Du point de vue métaphysique, mais il s'intéresse pas...
Non.
Comme Freud
peut le faire,
aux conditions d'apparition et à l'histoire, à la génétique de l'amour.
Non, il ne s'intéresse pas à ça, mais là, il y a tout de même.
Il y a tout de même
un passage où il parle de la. Mais de façon très très allusive, de l'interdiction d'inceste. En disant que l'interdiction d'inceste empêche le renouvellement de l'espèce, parce que, si vous voulez, en fait, on tient de sa mère, enfin, c'est sa théorie, hein, bon, c'est un peu fumeux, mais enfin, c'est comme ça, les qualités intellectuelles, et puis de son père, les qualités morales. Donc il faut faire un assemblage des deux. Alors s'il y a inceste, bon, ça va tout fausser. Bon. Mais c'est vraiment allusif, hein, franchement, ce qu'il en dit. C'est vraiment très allusif, c'est pas suffisant. C'est évident. Mais, si vous voulez... En même temps, oui, je suis prudent. Je préfère ne pas vous dire sûr qu'il n'en parle pas. Je ne sais pas. Peut-être, mais moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, vous voyez. C'est vrai que... Mais en même temps, je pourrais aussi vous répondre que lui, personnellement, il ne veut pas d'enfant. Puisqu'il veut, il préfère renoncer. Alors, il y a toute son assez, sa conception qui ne peut que nous rendre perplexes. Sa conception de la sagesse, qui consiste, au fond, à nier le vouloir vivre, vous voyez, en quelque sorte, à éteindre le vouloir vivre en soi, pour ne pas être, pour être le moins malheureux possible. Enfin, il y a une conception du bonheur assez particulière. Et donc, effectivement, il faut éteindre le vouloir vivre en soi, en quelque sorte. Il faut accéder à une sorte de nirvana. Bon. Et donc, d'une certaine façon, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est ne pas faire d'enfant. Donc il y a une espèce de renoncement à ça, hein, chez lui. C'est même, c'est vrai. Ça.
Le philosophe, c'est quelqu'un à qui on ne la fait pas finalement. C'est,
oui.
C'est une illusion, la cristallisation amoureuse, hein, lui, on ne la lui fait pas. Parce...
Alors là je suis naïf. Non, il n'aurait pas cette naïveté non plus de penser comme ça, parce que lui-même, tout être humain, en tant qu'il est amoureux, il n'y peut rien. Il est pris par cette illusion. Vous êtes capté par cette illusion. Vous avez beau avoir lu Schopenhauer, vous êtes capté par cette illusion. Vous êtes amoureux, oui, vous êtes transporté par cette illusion. Bon, non, lui, effectivement, oui, voilà, il veut se garder. Il veut se garder de cette illusion. Et donc, il y a tout un entraînement, il y a toute une ascèse qui consiste à pratiquer la chasteté, etc. Alors, une conception qui développe, je ne suis pas sûr qu'il l'ait pratiquée. Entre nous, enfin, je ne crois pas que... Enfin, lui-même était... Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de... Il prône une conception ascétique de l'existence, hein, qui consiste, au fond, à se libérer de l'emprise de la volonté, de l'emprise des désirs, par une forme de mortification, par une forme de frustration, d'une pratique. Bon, moi, voilà.
Et est-ce qu'il a développé la notion d'amitié au sens de filia des Grecs, par exemple?
Alors oui, là, ça apparaît, là. Un peu.
Il en parle.
Oui, l'accord des esprits, ça, c'est tout à fait ça. Hein.
C'est ça.
Oui. C'est tout à fait ça. Et il y a, le véritable amour pour lui, au fond, c'est la compassion.
Voilà, alors est-ce que ça reprend effectivement?
Alors, la compassion, c'est pas intellectuel, là, c'est l'accord des esprits, ouais, c'est autre chose. Ouais. La compassion, oui, là, parce que là on n'est pas limité à son individualité.
Et là, on quitte un peu le vouloir vivre, on arrive.
Tout à fait, voilà, tout à fait, tout à fait. Parce qu'on communie avec les autres au sens où on a la même identité de fond. Enfin, l'individu, finalement, notre individualité est une illusion.
Hein, donc, Eros serait du côté, justement, de la reproduction. De la
tout, à fait, tout à fait.
Et la filia, pour lui, ce serait du côté de la compassion et l'extinction du vouloir.
Agapé, peut-être. Non, attendez, quel est le terme qui désigne
l'amitié, en fait.
L'amitié, oui, mais il n'y a pas un autre mot. Je ne sais plus. La filia, je ne sais pas si elle est tellement mise en avant. Enfin, en tout cas.
Disons, au sens amitié, simplement.
Ouais, bah enfin, chez les Grecs, l'amitié, elle débouche sur une forme d'association, de vie politique, tout de même.
Ah oui.
Chez Schopenhauer, tu n'aimes pas ça. Hein.
Ouais.
Tu aimes une conception elle est très solitaire, tu aimes de l'existence. Nous sommes des êtres égoïstes. Et ce qui nous permet de dépasser l'égoïsme, pas d'une façon sacrificielle, c'est la compassion.
Oui.
Mais qui n'est pas donnée à tout le monde. Et qui va au-delà de l'espèce humaine. Alors, alors ça aussi, c'est un aspect que je n'ai pas développé. La pitié est quelque chose de fondamental chez lui. Et sous ce point de vue, il est assez proche de Rousseau.
Oui.
Hein, c'est vrai. Mais... oui, en fait, si vous voulez, l'idée chez lui, c'est que il faut s'affranchir de l'individualité. C'est l'individualité notre prison et notre illusion. Et ce qui fait que nous souffrons. Hein, bien sûr.
Mais est-ce que c'est un peu une sublimation du vouloir vivre?
Non, c'est une négation.
Négation,
carrément. Ouais. C'est-à-dire vraiment éteindre le vouloir vivre en soi.
Oui, mais si on veut aller du côté de l'agapé ou de...
Alors,
est-ce que ça serait un peu une sublimation du vouloir vivre?
Sublimation, ça veut dire que... il parle plutôt d'une conversion, d'un retournement, d'une négation... Il ne parle pas en termes de sublimation. Sublimation, il y a l'idée qu'il y a toujours une énergie que l'on continue, que l'on maintient, mais que l'on transforme. Puisque là, ce n'est pas ça chez lui. Sa conception ascétique, c'est plutôt de faire refluer cette volonté.
Mais si on se place, comme semble le faire Schopenhauer, du point de vue de l'espèce, la compassion peut avoir un intérêt.
Oui. Préservation de ceux qui vivent, pas forcément de sa perpétuation. C'est pas tout à fait pareil.
Une espèce dont les membres éprouvent la compassion les uns pour les autres a peut-être plus de chance de.
Oui, bien sûr.
Une espèce dont les membres
continuent
le combat.
Ça
peut avoir un intérêt.
La pitié, il ne l'envisage pas d'un point de vue politique, je ne crois pas. C'est-à-dire que lui, sur le plan politique, il a une conception, je dirais, assez classique, celle de Thomas Hobbes. Hein. L'homme est un loup pour l'homme, il faut un État, il faut une police. c'est clair, hein, il n'y a aucune... c'est un libéral au sens classique du mot. Et il n'a aucune espérance de progrès. Il n'y a pas l'idée d'une histoire qui permette aux hommes de changer le monde. Non, les hommes seront toujours essentiellement égoïstes. Et la compassion, c'est une vertu, enfin c'est un sentiment qui n'est pas donné à tous, hein, je pense pas non plus.
Oui, non, mais je fais allusion un peu à, dans la théorie de l'évolution.
Ah oui, c'est Darwin.
De l'altruisme,
oui.
Qui peut être contraire
tout à fait.
À l'intérêt individuel à un intérêt pour l'espèce.
Tout à fait, mais chez l'homme, oui, il y a une transformation, effectivement.
Un avantage évolutif.
Oui, c'est tout à fait. C'est pour ça que Darwin n'est pas du tout darwinien au sens vulgaire du mot. Absolument, tout à fait. Mais non, il n'y a pas ça. Je ne crois pas qu'il y ait ça chez Jean Bonhomme. Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il y ait ça. Effectivement, une sociabilité, quoi, qui serait fondée... ouais, non. Là, l'égoïsme est indépassable, quelque part. Hein. Et donc, quand, il me semble que lorsqu'il part de la compassion... c'est un sentiment rare, relativement rare, et qui malheureusement ne peut pas déboucher sur un nouvel ordre politique du monde. Hein, je crois pas, en tout cas. Mais là, il faudrait travailler sur les textes. Il faudrait encore faire d'autres séances. Ah, oui. Vous voyez, quand on lit un auteur, un philosophe, il y a toujours du chantier. Hein, mon ambition, si je peux dire les choses comme ça, c'est de dire progressivement les choses et que vous vous rendiez compte de ça, que vous puissiez vous-même le lire, après vous-même. Vous voyez, sans... On lance des pistes. Hein. Non, parce que c'est vrai qu'après, il faudrait retravailler là-dessus. Alors, l'année prochaine, peut-être je vais reprendre peut-être un auteur que j'ai déjà fait, pour un peu aussi profiter des choses. De temps en temps, il ne faut pas non plus tout le temps ouvrir des chantiers nouveaux, mais il faut aussi profiter un peu de... Il faut revenir. Un peu.
Un auteur a déjà travaillé.
Ouais, je pense, peut-être. Oui. Que je connais plus, en tout cas.
Quel auteur?
Ah, je dis rien. C'est interdit. Ah non, c'est secret. C'est secret.
Secret,
on n'a pas le droit de le savoir.
On
saura que le 6 juin. C'est vrai que, bon, là par exemple, Schopenhauer, Bergson, Sartre, bon, vous connaissez, mais c'est vrai que c'est à chaque fois des continents nouveaux, quoi. C'est bien de temps en temps de revoir. Ce serait bien de refaire un jour un texte de Nietzsche, ou refaire un texte de Spinoza, ou refaire un texte de voilà. De toute façon, il y a plein de choses à faire. Hein. J'ai jamais osé, par exemple, un texte que j'adore, c'est Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité de Jean-Jacques Rousseau. Mais je ne l'ai jamais fait parce que je me suis dit que si je le proposais, il y a des gens qui me diraient « Oh, mais ça, c'est scolaire, on le fait, on connaît déjà. » Et alors que moi... pour moi, c'est une idée fausse, parce que justement, on croit souvent le connaître, et puis on en a une idée très fruste. Et c'est un texte génial. Pour moi, c'est un texte génial. Et un des plus forts qui puisse entrer dans la compréhension d'un tas de choses. Vous voyez ? Non, il y a des tas de beaux textes. Hein. Mais c'est pas Rousseau, hein, j'envisage. Voilà, il y a plein. Schopenhauer, j'ai eu envie de le lire parce que j'ai toujours, lisant Nietzsche, tu dis.
Oui, c'est vrai que ça.
Bah oui, même. C'est important.
Faire une comparaison un peu.
Oui. Puis on va, à partir de là, reprendre du Nietzsche, oui. Ouais. Non, sans pas Nietzsche l'année prochaine. Hein. Oui, mais on peut. En fait, le problème, si on prend du Nietzsche, il faut prendre un texte.
Oui, oui, voilà.
Il y a des textes très classiques de lui, Humain trop humain, des choses comme ça, qui sont écrits de façon assez classique. Parce que il y a des textes, oui, alors là, franchement.
Le socle est ça.
Ah oui. Oui.
La souffrance.
Alors, c'est vrai. Alors, il y a effectivement, c'est des textes qui prêtent à discussion. Enfin bon, il y a des choses qui peuvent. Bon. Mais oui, tout à fait. C'est pas désagréable à lire. Hein. Non, je sais pas. Il y a plein d'autres choses. Hein. Donc, si vous avez des idées, dites-les-moi. Hein, d'œuvres que philosophiques. Un jour, je me suis dit, parce qu'on ne lit jamais Voltaire. On entend toujours parler de Voltaire en tant qu'auteur des contes philosophiques, mais ne lit pas, et ça, c'est ça dommage.
Lequel,
Voltaire ? Voltaire ? Ah ben, si je lisais Voltaire, peut-être que je ferais un choix. Enfin, parce que bon, c'est pas trop dur à lire, Voltaire, c'est vrai. Mais, comment dirais-je, faire une sorte de groupe de textes avec des un ou deux contes, et puis avec deux essais philosophiques en même temps. Enfin, je sais pas, passer de l'un à l'autre, enfin, vous voyez, faire une sorte de faire ce genre de choses. Bon, enfin, je sais pas, tout est possible.
Mais ce ne sera pas Voltaire.
Ce ne sera pas Voltaire. Vous voyez, de toute façon, il y a tellement de choses qu'on devrait faire.
Bon, ce n'est pas classique. Un Descartes.
Descartes, oui. Un Descartes, enfin bon. Il y a plein de choses. Il y a un Platon. Hein. Enfin bon, vous voyez, bien Aristote, on n'a jamais vu. C'est Aristote, j'avais fait. Et Lucrèce. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Quand on lit bien, ou Pascal, on a déjà vu. Bon, on va peut-être arrêter là. Je te donne la clé.